Le pudding à l'arsenic.
Oh oui.
Dans un grand bol de strychnine, tel délier de la morphine, faire tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non.
Hein?
Oda Lemon. De aquellos azares desatados por la luz de la luna, de aquel olor de amor exasperado, hundido en la fragancia, salió, del limonero el amarillo, desde su planetario bajaron a la tierra los limones. Tierna mercadería. Se llenaron las costas, los mercados de luz de oro silvestre, y abrimos dos mitades de milagro, ácido congelado que corría desde los hemisferos de la estrella. Y el licor más profundo de la naturaleza, intransferible, vivo, irreductible, nació de la frescura del lumen, de su casa fragante, de su ácida, secreta simetría. En el limón cortaron los cuchillos una pequeña catedral. El ábside escondido abrió a la luz los ácidos vitrales y en gotas resbalaron los topacios, los altares, la fresca arquitectura. Así, cuando tu mano empuña el hemisferio del cortado, limón sobre tu plato un universo de oro derramaste. Una copa amarilla con milagros, uno de los pezones horrorosos del pecho de la tierra, el rayo de la luz que se hizo fruta, el fuego diminuto de una planeta.
Madame, monsieur, si vous voulez bien me suivre, votre table est prête. En amuse-gueule, la maison vous sert le quatrième épisode de Les yeux ont des oreilles. Tout juste sorti du four, fleurant bon le papier chaud et l'encre frais, polyglotte et... 80% VO. Quasiment sans traduction ni édulcorant. L'apéritif vous a été versé par Camille, le début du poème L'ode au citron de Pablo Neruda, en version originale bien sûr, pour vous rafraîchir le palais avec une note d'acidité ibérique. Pour assurer le service lors de ce repas, vous aurez en outre Willem et Viviana, sous la supervision de moi-même, Caroline, le maître d'hôtel. Comme un serveur, mais puissance 2. Plus d'amidon dans la chemise, plus de responsabilité dans le boulot, plus de snobisme sur la figure. En cette quatrième édition, nous avons bien failli avoir les yeux plus gros que le ventre. La littérature, un art de l'esprit, les écrivains ne semblent pas au courant, résolument ancrés qu'ils sont dans le monde matériel, cette bande de morphales. Mais nous avons pris pitié de vos oreilles, et face au banquet des livres que nous voulions vous proposer, nous avons dû serrer la ceinture. Ce qu'il reste, c'est donc la crème de la crème. Quelque chose pour les gourmets de nourriture et de littérature.
Il faut toujours avoir la frite déjà. Après, on goûte à la moule.
Choqué, pourtant le mauvais goût est un goût comme les autres, c'était Thierry, un des candidats de Top Chef, proposé pour la maquette par Will. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. De toute façon, vous auriez dû vous en douter, on vous a mis le pudding à l'arsenic d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre en virgule d'ouverture. Vous commencez à savoir que, à les yeux des oreilles, on lit et on mange de tout, vraiment de tout. Le gouvernement nous conseille bien d'avoir une alimentation variée, non? Eh bien, Figaro, notre mascotte, le crâne en papier mâché, ne contient aujourd'hui pas seulement des M&M's, mais aussi des arlequins et des papillotes aux deux chocolats.
Qu'est-ce qu'il a encore, le cow-boy?
Bien que vous avez bourré mon chariot à ras-bord d'un tas de bazar inutile. Non mais regardez-moi ça. Quel est l'origan coriandre? Non, t'as plutôt un coriandre. C'est quoi ça, coriandre? Et puis ça, c'est quoi?
Ça s'appelle une laitue.
Laitue? C'est quoi ces salades?
C'est un légume vert, monsieur le cuisinier. L'équipage a besoin des quatre groupes d'aliments.
Jugez-moi vos quatre groupes d'aliments, faillot, patates, whisky et là.
C'était Atlantide, l'Empire perdu. De Disney, pas de Platon. Blague à part, manger de tout, c'est important, mais si vous deviez choisir un aliment, un seul, vous vous retrouvez sur une île déserte et vous ne pouvez choisir qu'un aliment. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez pour le cuisiner, mais ce sera un aliment. Et pas la peine de me raconter, je mange des racines, je fais un élevage de chèvres, comme ça j'ai du lait, de la viande, y a rien sur cette île. Du sable, de l'eau douce, quelques arbres vénéneux pour vous faire de l'ombre, des perroquets pas comestibles pour vous tenir compagnie. Un aliment. Ah oui, j'avais oublié, c'est une émission de lecture. Eh ben, un livre aussi. Les dames d'abord. Camille?
Du houblon.
D'accord. Que du houblon.
Mais c'est un aliment de moine et je pense que ça peut faire oublier la solitude, donc du houblon. De la bière, quoi.
D'accord.
Ça se nourrit et ça se boit, c'est parfait.
Ouais, ok. Et le livre?
La vie mode d'emploi de Perec. Parce qu'il est inépuisable et parce qu'il y a plein de recettes de cuisine dedans. Donc ça me rappellera des saveurs perdues.
Excellent. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Viviana?
J'aime beaucoup la chocolat, donc je voudrais amener de la chocolat. Mais si je dois choisir un autre aliment plus sérieux, je pense la pomme de terre. Parce qu'on peut la cuisiner dans plusieurs faisons, et c'est ça. Et le livre, les 49 nouvelles de Hemingway, je pense que c'est parfait, je l'aime beaucoup.
Je suis sûre qu'Ernest serait très fier. Will ?
Alors en ce qui me concerne, étant donné que j'ai une passion théologique pour les œufs, je prendrai des œufs. Et pour les livres, je pense que je prendrai un livre avec des pages blanches, comme ça je pourrais écrire ce que je veux dedans.
Ah, ces artistes. Bon, moi je suis pragmatique. Le riz maintient une bonne partie de l'Asie en vie, ça marchera aussi pour moi. Et pour le livre, la Bible, si les commentateurs religieux s'étripent dessus depuis des millénaires, c'est bien parce qu'on n'a jamais fini de le lire. Robin, un avis ?
Alors moi, j'emporterai des frites belges. Et c'est important parce qu'on ne sait pas les cuisiner ailleurs. Et les fictions de Borges.
D'accord. Bon, alors le houblon, c'est vraiment pas mal. Le chocolat, tout ça. Pour l'instant, les deux meilleures réponses que j'ai eues à cette question, que je pose à quasiment toutes les personnes que je rencontre, c'était donc le foie gras de mon ex-coloc. Parce qu'il a dit, de toute façon, à manger un seul aliment, je vais vite crever. Donc tant que ce soit quelque chose de cher et d'exceptionnel, comme le foie gras. Et une réponse d'une agrégative, dont je tairai le nom parce que, elle est de ma grègue, il faut la respecter, qui m'a dit des champignons. Parce que les champignons, tu peux les cuisiner sous plein de façons différentes. Et il existe une certaine variété de champignons qui lui fera croire qu'il y a plein de gens avec elle sur l'île. Ouvrez grand vos oreilles, chers auditeurs, et entr'ouvrez votre frigo, on sait jamais. Pour notre entrée, les personnages en sont déjà au dessert, peu importe. Comme disait un petit panonceau dans un restaurant végétarien d'Ottawa, au Canada, la vie est imprévisible, mangez votre dessert d'abord. Pour le plus grand plaisir de vos papilles, de vos mirettes et de vos tympans, voici donc Barbe Bleue, pas de Charles Perrault, mais d'Amélie Nothomb, avec Willem et Viviana pour se donner la réplique, et moi pour la petite narration. À table ! Ou plutôt, comme me dirait la maman de « Fais pas ci, fais pas ça »,
voulez-vous un dessert ?
Proposé de cette manière, on croirait une menace ?
C'en est une. Il s'agit d'une crème à base de jaune d'œuf.
Vous me servez une omelette et puis des œufs en guise de dessert ?
J'ai une passion théologique pour les œufs.
Et votre estomac, c'est l'incommode ?
La digestion est un phénomène purement catholique. Tant que le prêtre m'absout, je peux digérer des briques. J'ajouterai que la Sainte Espagne a toujours réservé à l'œuf la place qui lui est due. À Barcelone, les religieuses utilisent tant de blancs d'œufs pour raidir leur voile que les cuisiniers ont dû apprendre à inventer 1000 recettes au jaune d'œuf.
Donnez-moi donc la valeur d'un coquetier.
L'hôte alla chercher des tasses en or massif et les remplit d'une onctuosité jaune. Saturnine en resta figée d'éblouissement.
Ces jeunes parcs d'ancêtres au baroque, c'est une beauté,
finit-elle par dire. Don et Emirio, pour la première fois, regarda la jeune femme avec un intérêt véritable.
Vous êtes sensible à cela ?
Comment ne pas l'être ? Rouge et or, bleu et or, même vert et or sont des associations sublimes, mais classiques. Jaune et or, un art, cela n'apparaît pas. Et pourquoi ? C'est la couleur même de la lumière, modulée sous plus mat au plus brillant.
L'homme posa sa cuillère et avec toute la solennité possible, déclara.
Mademoiselle, je vous aime.
Déjà ? Et pour si peu ?
Je vous prie de ne pas gâcher par des paroles inconsidérées l'excellente impression que vous venez de produire. L'or est la substance de Dieu. Aucune nation n'a autant le sens de l'or que l'Espagne. Comprendre l'or, c'est comprendre l'Espagne, et donc me comprendre. Je vous aime, c'est ainsi.
Soit, je ne vous aime pas.
Cela viendra.
Saturnine goûta la crème de jaune d'œuf.
C'est délicieuse,
dit-elle. Don Emirio attendit qu'elle finisse, puis s'exclama.
Je vous aime encore plus.
Que s'est-il passé ?
Vous êtes la première qui n'ajoute pas que c'est écœurant ou trop sucré. Vous n'êtes pas une petite nature.
La jeune femme s'efforça de ne plus rien dire, par peur de renforcer une passion à laquelle elle ne comprenait rien. Pour échapper au regard brûlant et désormais fixe de l'espagnol, elle prétexta la fatigue pour disparaître dans ses appartements.
Taille-moi les hanches, à la hache j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os.
Merci Viviana, et merci Will pour avoir trouvé, comme à ton habitude, un passage délicieusement bizarre. Et vous aviez tous reconnu La femme chocolat d'Olivia Ruiz en virgule. Œuf ou chocolat, c'est à consommer en modération pour éviter la crise de foie. Il y a des mots qu'on lit sans les voir et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Ce site est une lecture insolite proposée par Willem, qu'il a vu dans une université lyonnaise dont je tairai le nom. Donc, sur la table, une table utilisée pour les cours d'agrégation d'anglais, apparemment, on peut lire Green Angels 1992, Tintin mange des spaghettis, Donald mange des cornichons, Riri mange du fenouil, Astérix mange des frites avec du ketchup, Mémé n'en doit 33 mémés, 30 000 euros. C'est l'avenir de la France, messieurs dames. Allure. Je vais vous lire une étiquette et vous allez essayer de deviner ce que c'est. Minéralisation totale. Calcium Ca++ 80, magnésium Mg++ 26, sodium Na+ 6,5, sodium K+ 1, silice CiO2 15, bicarbonate HCO3, je sens rien, 360, sulfate SO4 12,6, chlorure Ci- 6,8, nitrate NO3 -3,7. Teneur totale en sels minéraux à 180 degrés Celsius, 309 mg par litre. pH 7,2. Qu'est-ce que c'est ?
C'est de l'eau ?
Ouais, de l'eau.
Oui ! Ah, je pensais vous avoir ! Je trouve que c'est des compositions chimiques, genre pour une bombe. Ouais, voilà. Bon, j'ai pas réussi à vous avoir, tant pis pour moi. Alors, l'autre jour, à la bibliothèque, mon ordinateur a capté un réseau Wi-Fi qui s'appelait Omar. Pas le prénom, mais l'animal. Donc j'aimerais bien avoir une discussion avec le propriétaire de ce réseau. Je ne l'ai plus jamais vu, donc ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Et pour finir, est-ce que quelqu'un peut piocher une papillote dans Figaro et me donner la blague ou le rébus pourri qui va avec ? Vous pouvez manger la papillote. Je pense que Camille est volontaire.
Je mange le chocolat d'abord ou après ?
Comme tu veux.
Alors, tiens, il y a un petit dessin aussi.
Alors... Où les enfants entrent-ils tous quand ils ont 7 ans ?
À la maternelle ?
En primaire plutôt ?
Oui.
Ils entrent tous dans leur 8e année. Voilà, c'est comme les blagues carambars, c'est vraiment pourri.
Le chocolat est bon par contre.
Après un ogre obsédé par les œufs, passons maintenant au plat de viande, le cannibalisme. Oui, fermez le frigo et allez chercher une cuvette, ça vaudra mieux. Nul besoin, j'espère, de vous présenter Hannibal Lecter, le tueur en série cannibale et génial, créé par le romancier Thomas Harris. Après être apparu dans Dragon Rouge et Le Silence des Agneaux, il prend le devant de la scène dans le aptement titré Hannibal. Dans cet extrait, il a invité Clarice Starling à dîner et le menu est un peu spécial. La coupable de cette anthropophagie est Camille, d'après la traduction de Bernard Cohen.
Clarice, le dîner est un tribut au goût et à l'odorat. Les plus anciens des sens et aussi les plus proches du centre de la pensée. Le goût et l'odorat résident dans des régions de l'esprit qui ont préséance sur la pitié, et la pitié n'est pas reçue à ma table. Mais le cérémonial, le spectacle et les échanges du dîner jouent sur le dôme du cortex tels que les miracles illuminés au plafond d'une cathédrale. Cela peut se révéler bien plus passionnant qu'une pièce de théâtre. C'est quoi le menu ? Monsieur Crandler va se joindre à nous pour les entrées. Le sous-inspecteur général Pondkindler, en personne, était assis à la table dans un solide fauteuil en chêne. Il ouvrit de grands yeux et regarda autour de lui. Il portait son bandeau de jogging et un très beau costume d'ordonnateur des pompes funèbres, avec la chemise et la cravate intégrées. Le docteur Lecter avait déjà saisi une pince en argent sur la desserte, avec laquelle il retira d'un coup sec l'adhésif qui couvrait la bouche de Crandler. « Encore bonsoir, monsieur Crandler. »« Bonsoir. » Il n'avait pas tout à fait l'air dans son état normal. Son couvert était mis, une petite soupière individuelle posée sur son assiette. Le docteur avait ajouté des échalotes à son beurre fondu. Au moment où leur parfum pénétrant s'éleva, il compléta la sauce avec des câpres émincées, retira la casserole du feu et remplaça par la sauteuse. Il prit un grand bol en cristaux rempli de l'eau glacée et un plateau en argent sur la desserte, les posa près de Pondkindler. Il lui retira son bandeau de jogging, comme on enlève la bande plastifiée autour d'une boîte de caviar. « Tout ce que nous vous demandons, c'est de manifester une certaine ouverture d'esprit. » Avec précaution, des deux mains, il souleva la calotte crânienne de Crandler, l'installa sur le plateau et rapporta le tout à la desserte. L'incision, très nette, ne saignait pratiquement pas. Les principaux vaisseaux avaient été ligaturés, les autres neutralisés par une anesthésie locale, et le crâne scié à la cuisine, une demi-heure avant le début du dîner. La méthode utilisée par le docteur Lecter était aussi ancienne que la médecine égyptienne, sinon qu'il avait pu profiter des avantages modernes d'une scie d'autopsie, d'un craniotome et d'anesthésiques plus puissants. Le cerveau ne ressent pas la douleur quand elle s'applique à lui-même. Au-dessus de la boîte crânienne tronquée, le dôme de la masse cervicale, d'un rose grisâtre, émergeait nettement. Penché sur Crandler avec un instrument qui ressemblait à une curette d'amygdalectomie, le docteur Lecter préleva une tranche du lobe frontal, une autre encore, jusqu'à en avoir retiré 4. Les yeux de Crandler étaient levés, comme s'il surveillait l'opération. Le docteur déposa les tranches dans un bol d'eau glacée, acidulé d'un jus de citron, afin d'en raffermir la chair. La gastronomie classique veut que la cervelle soit rincée, essorée, et mise au frais une nuit entière pour lui donner toute sa fermeté. Il s'agit d'éviter que la pièce, exposée à l'air depuis peu, ne se désintègre en un petit tas de gélatine informe. Avec une admirable dextérité, le docteur Lecter coucha les tranches raffermies sur une assiette, les saupoudra de farine assaisonnée puis de miettes de brioche à peine sorties du four. Il râpa une truffe fraîche au-dessus de sa sauce, qu'il releva d'un trait de jus de citron. Il saisit rapidement les tranches, les faisant dorer de chaque côté. « Ça sent bon !» croissa Crandler. Après avoir dressé les filets sur des canapés, il les nappa de sauce et de lamelles de truffe. Sur les assiettes chaudes, une garniture de persil et de capre non équeutée, ainsi qu'une fleur de capucine couchée sur un lit de cresson pour rehausser l'ensemble, vers compléter sa présentation. La voix de Crandler s'éleva derrière le bouquet, qui avait été replacé en écran devant lui, avec une force incontrôlée, comme c'était souvent le cas chez les sujets ayant subi une lobotomie.
« Commencez !»«
Délicieux, vraiment, » fit Straling. « C'est la première fois que je mange des capres. »
Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi. C'est le champ des silos qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Merci Camille. Donc moi non plus, j'ai jamais mangé de capre et j'espère que j'en mangerai jamais.
I want more. You gotta stop.
À nouveau, mon boulot consiste à formuler des évidences. Les champignons dont parle Billy the Kick dans Mangez-moi, c'est pas le genre qu'on met dans l'omelette. Et pour ceux qui auraient une envie soudaine de faire du thème grec, champignon se dit mykès, mykétos. Vous voyez l'étymologie, ça évoque pas non plus des champignons qu'on met habituellement dans la bouche, sauf peut-être les fétichistes des pieds. Mais cette information vous sera utile pour le voyage que nous amorçons vers la Grèce antique pour découvrir la fin de la comédie d'Aristophane, l'Assemblée des femmes. Les dites femmes, qui avaient tenté de prendre le pouvoir, retournent à leur place, dans la cuisine. C'était la minute misogyne après la minute étymologie. Et invitent tout le monde à un festin dionysiaque. Cette scène contient également le mot le plus long de la langue grecque et probablement du monde entier, qui se traduit par « Lépa, salaison, poisson cartilagineux, tête de squale à la sauce piquante, citron assaisonné au miel, grive, merle, pigeon, crête de coq grillé, poule d'eau, colombe, lièvre au vin cuit, tranche de volaille avec les ailes. » Malheureusement que c'est pas moi qui vais le lire en grec. Pas pour te mettre la pression, Willem. Viviana prête sa voix au maître. Traduction par Eugène Talbot.
Il est resté du vin de Chios et d'autres bonnes choses. Ainsi, ne tardez pas, s'il se trouve quelques spectateurs bienveillants, quelques juges au coup d'œil impartial, qu'ils viennent avec nous. Nous le pourvoirons de tout. Aide donc pour tous des paroles affables. Ne dédaigne personne, mais invite généreusement vieillards, jeunes gens, enfants. Le dîner est préparé pour tout le monde.
Je me rends donc au festin et je porte ces flambeaux comme c'est l'usage.
Mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi n'emmènes-tu pas ces jeunes filles avec toi? Moi, pendant la marche, je chanterai quelques chansons de table. Allons, allons, c'est le moment. Chers amis, si nous voulons achever l'affaire, il faut nous rendre en dansant au dîner. Ajustez vos pieds au mode crétique et toi, marche en avant.
Ainsi fais-je.
Et vous, les jambes fines, observez la cadence. Bientôt, on va servir le Lopadotema Cosela Galeo, Craniolei Psanodrimi, Potrimatosilficara bomelito, Katakekimeno, Kiklei psychosifofatoperi, Steiralek trionopteke, Faliokinkilopelei, Olagoiosiraio bafetra, Ganopterigon. Et toi, dûment prévenu, vite vite, prends une assiette, un jaune d'œuf et cours te mettre à table. Les autres mangent déjà, jambes en l'air, yé, yé, à table, évoé, 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 victoire, évoé, 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 évoé.
Merci Viviana, bravo Will. Comme la virgule qui suivait, cette lecture relevait du presque parfait. Tiens, ça devrait un bon temps grammatical ça. Non, parce que viser direct le plus que parfait, on voit que les grammairiens ne se mouchent pas du coude. Alors, vous l'aviez peut-être oublié au milieu de notre sublime multilinguisme, mais ce repas reste français. Et qu'aiment les Français? Oui, le vin rouge. Et le saucisson. Mais là n'est pas l'essentiel, le pain pardi. Poème en prose de Francis Ponge, extrait du volume Le parti pris des choses. Le pain. La surface du pain est merveilleuse d'abord, à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol, que l'on nomme la mie, a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs, y sont comme des sœurs siamoises,
soudés par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ses fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins un objet de respect que de consommation. Pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet pas, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Et c'était les cornichons de Nino Ferrer, parce que les cornichons, ça va bien avec le pain. Le fromage aussi, autre merveille de la gastronomie française, mais on fait avec les virgules qu'on a. À présent, passons aux plats de résistance, pas chronologiquement, mais en termes d'importance. De toute façon, je suis pour les repas anarchiques. Et au fourneau, Viviana, qui a pour tâche de concocter une discussion entre nous quatre autour d'un extrait de La connaissance de la douleur d'Emilio Gadda, La cognizione del dolore. Un peu de satire sociale pour pimenter ce repas plantureux. Et pour ceux qui ne parlent pas italien, c'est-à-dire tout le monde ici sauf Viviana, traduction de Louis Bonalumi et François Val, encore lui, lu par Camille.
Per lo più, il coltello della frutta non tagliava. Non riuscivano a sbucciare la mela. Oh, la mela gli schizzava dal piatto come un sasso di fionda, a rotolare fra le scarpe lontanissime. Allora, con voce e dignità risentita, era quando dicevano «Cameriere, ma questo coltello non taglia!» Tra i cigli improvvisa una nuvola imperentoria. E il cameriere accorreva trafelato con altri ossobuchi ed esternando tutta la sua costernazione, la sua piena partecipazione, umiliava sommessa istanza a piè il corruccio delle loro signorie, in un tono più che sedativo. «Provi questo, signor cavaliere!» Ed era già trasvolato, il quale... questo taglieva ancora meno di quello di prima. Oh, rabbia! Mentre tutti, invece, seguitavano a masticare, a bofonchiare addosso agli ossi scarnificati e a intingolarsi la lingua e i baffi.
Le plus souvent, le couteau à fruits coupait mal. Ils n'arrivaient pas à peler leurs pommes. Ou la pomme filait de l'assiette comme un trait de fronde pour s'en aller rouler entre des chaussures au loin. Alors, voix et dignité blessées, eux protestaient. « Garçon, mais ce couteau ne coupe pas !» Entre les sourcils, imprévu. Un auguste nuage. Et garçon d'accourir, haletant avec ses os à moelle, et d'extérioriser sa consternation, de témoigner la part qu'il prenait à l'offense, soumettant sa très humble instance aux pieds courroucés de leur seigneurie, d'un ton mieux que sédatif. Essayez celui-là, excellence. Mais déjà, il avait disparu. Le « celui-là » coupait encore moins bien que l'autre. Rage. Pendant ce temps, chacun continuait à mastiquer, à grommeler sur des os écharnés, à s'ensaucer la langue et la moustache.
Et quelle era la vita. Fumavano. Fumavano subito dopo la mela, apprestandosi a scaricare il fascino che da lunga pezza ormai, cioè fin dall'epoca dell'ossobuco, si era andato man mano accumulando nella loro di loro persona, come l'elettrico nelle macchine a strofinio. E così rimanevano, il gomito appoggiato sul tavolino, la sigaretta fra il medio e l'indice, emanando voluttuosi ghirigori, mescolati di miasmi, questo si sa, dei bronchi e dei polmoni felici, mentre che lo stomaco era tutto messo in giulebbe e andava dietro come un disperato ameboide a mantagruggiare e a peptonizzare l'ossobuco. La peristalsi veniva via con un andazzo trionfale da parer canto e trionfo e presagio lontano di tamburo, la marcia trionfale della Ida o il toreador della Carmen. E così rimanevano a guardare. Chi? Che cosa? Le donne? Ma neanche. Forse a rimirar se stessi nello specchio delle pupille altrui. In piena valorizzazione dei loro polsini e dei loro gemelli da polso e della loro faccia di manichini ossibuchivori.
C'était la vie. Il fumait. Aussitôt passait la pomme. Se disposant à libérer le charme qui, depuis un long moment, c'est-à-dire depuis le temps de l'ossobuco, était allé s'accumulant peu à peu en leur personne, comme le fluide dans les machines à frottement. Ils demeuraient ainsi, le coude pointé sur le guéridon, la cigarette entre le médius et l'index, laissant monter de voluptueux méandres, mêlés de miasmes, c'est vrai, des bronches et des poumons épanouis, cependant que l'estomac buvait du petit jus et s'obstinait, tel un inlassable amiboïde, à palper et peptoniser l'ossobuco. Péristaltisme exécuté sur un mode glorieux, à l'instar d'un chant et triomphe, lointain présage de tambour, marche d'Aïda, entrée du toréador de Carmen. Ils demeuraient ainsi, à regarder. Qui ? Quoi ? Les femmes ? Pas même. Peut-être à se contempler à part soi, dans la glace des pupilles d'autrui. En pleine valorisation de leurs manchettes et des boutons afférents, et de leur gueule de mannequin os à moelle d'or.
Et donc nous sommes arrivés finalement au moment du fruit et de la cigarette.
Juste pour savoir, le sobuco, c'est un bien typique de Milan que je n'aime pas particulièrement, mais tous les goûts sont dans la nature. Comme vous avez pu remarquer, le style de cet arrivant est très particulier et très difficile à comprendre. Aussi pour moi que je suis italienne. Les romans, sortis en 1963, est inachevé et il raconte l'histoire compliquée d'un fils et sa mère. Bon, retournons à l'extrait. Les protagonistes, c'est la bourgeoisie milanaise qui est décrite pendant le moment sacré du déjeuner. Toutes les actions sont des rituels précis analysés par l'écrivain avec une force satirique incroyablement violente. Ce n'est pas un hasard s'il choisit ce contexte pour sa critique sociale. La bourgeoisie est décrite par le narrateur comme très vulgaire. Par exemple, les hommes mangeaient beaucoup et de façon pas très élégante. Et c'est lors de l'observation de ces repas qu'ils sont vus comme des animaux, non pas sociaux comme dirait Aristote, mais plutôt comme bêtes sauvages. L'acte de manger révèle ici une signification de démarcation sociale. Donc c'est au même temps nature, parce que comme tous les autres animaux, nous devons nous nourrir, et culture. On pense par exemple que dans les poèmes épiques, l'acte de manger était lié au sacrifice. Ok, maintenant à vous. Dans quelle mesure la nourriture peut avoir un sens différent et particulier dans la structure des romans que vous avez lus?
Dans Barbe Bleue, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux personnages, donc Dona Emilione, Balmilcar et Saturnine, se retrouvent quasiment essentiellement autour des repas. Donc en fait, c'est un roman qui se construit à 90% autour des repas. Et justement, la façon dont il mange et ce que Dona Emilione prépare à Saturnine est aussi très symbolique de la relation qu'il essaie de lier avec elle. Parce qu'au début, elle est là, non, je ne tomberai pas amoureuse de lui, puis au fur et à mesure...
Les personnages deviennent amoureux de Saturnine pour la façon que... Donc, elle mange. Et donc, vous pensez que la nourriture, c'est toujours lié à la sensualité dans la littérature?
Camille, tu nous parlais de Stupeur et tremblement, un autre livre d'Amélie Nothomb, que j'aime pas du tout, où son fiancé japonais l'arrête parce qu'elle est fascinée par sa façon de manger. Et tu disais que c'était une volupté un peu primaire. Mais c'est quand même beaucoup plus esthétisé, beaucoup moins primaire que ton extrait d'Hannibal, non?
Si tu lis juste les passages qui évoquent la préparation, il n'y a que des aliments raffinés, il y a de la truffe, bon, les capres, ce n'est pas spécialement raffiné, mais il y a toute une préparation, un assaisonnement en fait, qui est le propre de la culture et de la cuisine, en fait, de la gastronomie. Et après, bah, tu as la viande qui est elle, un peu plus sauvage.
Et comme le dirait Guylaine Arabian dans Top Chef, l'assaisonnement, ça peut faire tout un plat.
Il y a quand même une partie un peu plus consistante, on va dire. Oui.
Mais du coup, elle ne le voit pas préparer la série.
Si, elle le sait très bien. J'ai coupé les passages où elle parle avec le lieutenant et où elle... Bon, déjà, elle ne l'aime pas, donc elle l'insulte allègrement, on va dire. Mais elle est très contente de manger son cerveau. Oui, le fait de manger le cerveau aussi, c'est très symbolique. Je crois qu'il lui a fait boire un truc avant aussi, quand même. Je pense que c'est aussi un peu un piège.
Je ne suis pas une femme. Enfin, je pense qu'on m'invite à manger le crâne de quelqu'un que je n'aime pas. Je ne suis pas sûre que ce soit ma réaction première.
Et du coup, dans ces extraits-là, c'est vrai qu'on avait vraiment le rapport des êtres humains à la nourriture et la façon dont ils peuvent lier des liens avec les autres à travers la nourriture. Par contre, l'eau de citron et le pain, c'est vraiment se concentrer sur un aliment et le regarder quasiment au microscope et le montrer à la fois... Enfin, je parle un petit peu espagnol, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est très beau, quoi. C'est une cathédrale et tout. Alors que le Francis Ponge, c'est beau, mais c'est aussi un peu immonde, quoi. C'est un sous-sol avec des choses qui racissent et... C'est vrai que si tu regardes de la nourriture au microscope, c'est forcément pas très joli. Hein.
Mais c'est vrai que Ponge, c'est de la prose poétique, alors que Monsieur Neruda, c'est vraiment de la poésie.
Oui, on est d'accord, c'est pas le même style.
Donc c'est pas le même style. Mais il y a quand même des images qui sont, on va dire, assez proches. Enfin, t'as parlé de la cathédrale, c'est aussi une image qui revient dans ton Ponge, je crois, l'architecture.
On a les montagnes, enfin, le côté vraiment géologique, donc c'est une forme d'architecture naturelle, si on veut, c'est vrai. C'est juste que ça donne pas vraiment la même impression des deux. Mais enfin, tu vois, des deux côtés, une fascination pour cet objet de la vie de tous les jours, en fait. Un citron, du pain.
Je pense que le pain, c'est vraiment l'archétype de la nourriture en soi. Enfin, ouais. C'est la chose la plus banale.
Surtout pour les Français.
Tout à fait. Alors que peut-être le citron, il y a plus une portée poétique. Enfin, c'est quand même un fruit assez... Plus un symbole derrière que Ponge, qui va vraiment s'attacher à une chose matérielle et un peu, je sais pas, prosaïque.
Ah, juste pour retourner à Lille, c'est dans la Bible, les pains.
Oui, oui.
Les aliments fondamentaux.
Pour un chinois, c'est peut-être plutôt le riz fondamental. Le riz, c'est important.
T'es attaché à ton riz, toi.
Oui, je suis attaché à mon riz. Sur mon île déserte, avec
les traditions.
Et ma Bible, tout à fait.
C'est vrai qu'avec le riz, on peut faire énormément de choses.
C'est vrai.
Dont du risotto. Aux champignons.
Ah okay. Et Viviana, tu dirais quoi du coup de... Parce que moi, en lisant le français, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir juste le spectacle, le scénario social que ça peut être un repas. Mais...
Il utilise des mots qui sont très difficiles aussi en italien parce qu'il utilise des mots étymologiques. Donc, par exemple, peptonizzare ou subuco sont des mots aussi très durs à écouter. Et donc, il fait aussi un petit jeu avec les sons. Et il imite les sons de l'estomac qu'il fait la digestion. Le style, c'est très rapproché au contenu. Et donc, le contenu, c'est des niveaux très bas. Et donc, le style est très haut, mais l'essence est très bizarre.
La cuisine interne du roman, où les mots sont des aliments et que les phrases sont des plats en eux-mêmes. Mm. Nous espérons t'avoir servi, auditeur, de très bons plats.
Pourquoi tu fais toujours la conclusion?
Parce qu'il fait bien. Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains bien pesées, autour d'un puits creusé. Choisissez quatre frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours.
Encore des œufs ? Ça suffit ce fétichisme ! Votre dessert vous a été offert par Podane, le célèbre film de Jacques Demy. C'est le moment où Catherine Deneuve chante la recette du cake d'amour pour le prince, au cours de laquelle elle casse un œuf d'où sort un poussin. C'est donc bien l'œuf qui vient en premier. Ayant résolu cette énigme fondatrice de l'humanité, nous pouvons clore l'épisode et commencer à débarrasser l'esprit tranquille. Nous espérons vous avoir plutôt mis en appétit que écœuré, pour vous donner envie de fourrer le nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Cette émission a été préparée tous ensemble, que ce soit pour les lectures ou pour les virgules, et pour les choix musicaux, Robin à la technique a encore ajouté son grain de sel à la popote commune, ça devient une habitude. Merci de nous supporter deux fois par mois, et le t-shirt du jour affiche un faisan, très élégamment habillé, le faisan élégant, Gentleman Club, le pauvre va finir à la casserole, fallait pas le mettre dans une émission sur la nourriture. Rendez-vous dans deux semaines pour un épisode spécial Noël, le 25 décembre tombe un mercredi, ce serait dommage de s'en priver.
D'ici là, tout est bon en poisson sous transistor, mais si vous tenez à voir l'autre versant du tube digestif, allez donc passer 20 minutes aux toilettes avec Thomas et il regarde le monde tourner. Ce beaucoup moins scabreux que ça en a l'air.
J'espère que vous avez relevé les mini-virgules dont cet épisode était saupoudré, un peu de Charlie à la chocolaterie, de Super Size Me, le fast-food, c'est mal, et de Hunger Games, parce que la nourriture, malgré l'impression que donnent les lectures du jour, peut s'illustrer aussi bien par son abondance que par son absence. D'ailleurs, en digestif, parlons un peu de la faim et parlons-en en allemand. Ein Hunger Künstler, un artiste du jeune, nouvelle de Franz Kafka. C'est bien sûr la toute fin que je vais vous lire, qui est à peu près aussi guirette que n'importe quelle fin de Kafka. L'artiste du jeune, finalement délaissé par ce public admiratif dont il se sentait toujours incompris, a été oublié sous la paille dans une cage du cirque. Découvert par des surveillants, il leur révèle enfin son secret, il ne pouvait s'empêcher de jeûner, car il n'a jamais trouvé de nourriture qu'il aimait. Une fois mort, on place à sa place un fauve plein de vie qui capture les spectateurs. Youpi ! Et si cette dernière lecture vous déprime, ou que vous détestez l'allemand, restez quand même pour une dernière virgule. Des frites, bordel ! De Thomas Dutronc.
Prenez des tubercules, des pommes de terre, vous savez, ces tubercules. Coupez-les en fines lamelles, plongez-les dans l'huile bouillante, salez-les, et vous aurez des frites. Ni Dieu, ni maître, mais des frites, bordel !
Immer fort wollte ich, dass ihr mein Hunger bewundert, sagte der Hungerkünstler.
Wir bewundern es auch, sagte der Aufseher entgegenkommend.
Ihr sollt es aber nicht bewundern, sagte der Hungerkünstler.
Nun, dann bewundern wir es also nicht, sagte der Aufseher.
Warum sollen wir es denn nicht bewundern?
Weil ich hungern muss, ich kann nicht anders, sagte der Hungerkünstler.
Da sieh mal einer, sagte der Aufseher.
Warum kannst du denn nicht anders?
Weil ich, sagte der Hungerkünstler, hob das Köpfchen ein wenig und sprach mit wie zum Kuss gespitzten Lippen gerade in das Ohr des Aufsehers hinein, damit nichts verloren gehe. Weil ich nie die Speise finden konnte, die mir schmeckt, hätte ich sie gefunden. Glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen, wie du und alle. Das waren die letzten Worte. Aber noch in seinen gebrochenen Augen war die feste, wenn auch nicht mehr stolze Überzeugung, dass er weiter hungere.
Nun macht aber Ordnung, sagte der Aufseher.
Und man begrub den Hungerkünstler samt dem Stroh. In den Käfig aber gab man einen jungen Panther. Es war eine selbst den stumpfen Sinn fühlbare Erholung, in dem so lange öden Käfig dieses wilde Tier sich herumwerfen zu sehen. Ihm fehlte nichts. Die Nahrung, die ihm schmeckte, brachten ihm ohne langes Nachdenken die Wächter. Nicht einmal die Freiheit schien er zu vermissen. Dieser edle, mit allem Nötigen bis knapp zum Zerreißen ausgestattete Körper schien auch die Freiheit mit sich herumzutragen. Irgendwo im Gebiss schien sie zu stecken. Und die Freude am Leben kam mit derart starker Glut aus seinem Rachen, dass es für die Zuschauer nicht leicht war, ihr standzuhalten. Aber sie überwanden sich, umdrängten den Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren.